Frères et sœurs, j'avais l'embarras du choix pour choisir un texte biblique destiné à nourrir notre méditation ce matin. Et c'est dans le psautier, dans le livre des psaumes, que j'ai retenu le psaume 82, pour une raison que vous découvrirez peut-être au fil de la lecture. Voici ce que dit ce psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-les à la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des humains. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, et juge la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et avant d'éclairer votre lanterne sur la raison du choix du psaume 82, je vous propose de vous lever pour chanter dans le recueil Louanges et prières ce cantique 202 qui nous permettra d'accompagner aussi ce baptême, le baptême de Noé. Cantique 402, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pour quoi tu l'as envoyé. Nous te prions pour que ce matin, elle vienne une nouvelle fois arroser et féconder notre terre, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, pour qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. C'est pour ce verset biblique, chers frères et sœurs, que j'ai choisi ce psaume. Et comme je ne vois pas beaucoup de visages illuminés, j'imagine que cela vous laisse assez perplexe. Eh bien, c'est le verset biblique qui sert de sous-titre au film « Des dieux, des hommes » qui sortira dans une dizaine de jours sur les écrans. Un film qui raconte l'histoire de ces moines cisterciens vivant à Tibérine, assassinés il y a maintenant 14 ans. Je me dis que dans une dizaine de jours, il va y avoir quelques contrastes sur les toiles parisiennes entre l'histoire de ces moines, diffusée sur les écrans de cinéma, et les scénarios des grosses productions telles que Salt, l'histoire d'une espionne jouée par Angelina Jolie, qui porte admirablement bien son nom, mais qui tue à tour de bras, ou pire encore, Expendables, qui rassemble les plus gros bras d'Hollywood en une équipe de mercenaires qui représente bien ces héros de cinéma qui massacrent comme ils respirent, et toujours pour la bonne cause, bien évidemment. D'un côté, des hommes fragiles, qui se posent des questions, qui se savent vulnérables, mais qui sont aussi conscients de leur vocation divine. Et de l'autre, des hommes qui sont des dieux de l'art de la guerre et qui s'arrangent pour faire oublier qu'ils ne sont que des hommes. Et c'est là le contraste saisissant, le drame que souligne ce psaume 82. Un drame d'ailleurs qui n'a de cesse d'être rejoué de part et d'autre de notre bonne vieille terre. Dieu a confié à l'humanité la responsabilité de prendre soin de la création. L'humanité s'est organisée avec des institutions en déléguant à certains de ses membres des responsabilités particulières, qui pour assurer la justice, qui pour favoriser l'épanouissement des uns et des autres. Et ces responsables, ce sont les dieux dont il est question dans ce psaume. C'est chaque être humain responsable, pour la part qui lui revient, de la bonne marche du monde. Les hommes, quoique de nature humaine, c'est-à-dire mortels, ont donc une fonction divine. C'est celle de créer un monde habitable, un monde vivable, et cela à l'image de ce que Dieu a entrepris, tel que nous le raconte le début du livre de la Genèse. Seulement, il y a un petit problème dans cette histoire. C'est que tout le monde n'a pas forcément une image très juste de Dieu. Et du coup, lorsque certains endossent le rôle de Dieu, eh bien, ils jouent au Dieu de leur fantasme, plutôt qu'au Dieu du scénario. Par exemple, penser que Dieu a droit de vie et de mort sur ses créatures peut donner à penser à certains hommes en situation de responsabilité qu'ils ont, eux aussi, droit de vie et de mort sur leur sujet. Considérer que Dieu exerce un contrôle des esprits et des actes peut donner à penser à certains en situation de responsabilité qu'ils peuvent, eux aussi, exercer un tel contrôle sur leur sujet et du même coup penser à leur place. Au fond, l'image que l'on se fait de Dieu n'est jamais sans conséquence sur nos relations humaines. On est toujours à agir un peu à l'image de ce que l'on projette sur Dieu ou ce que l'on comprend de Dieu, quand ce n'est pas l'inverse, quand on ne fait pas de Dieu les projections de ce qu'on préfère. Un Dieu justicier, c'est l'image que beaucoup de personnes ont. Dieu serait un justicier. Bien, en général, un Dieu justicier conduit à être assez impitoyable envers les autres, alors qu'un Dieu miséricordieux conduit plutôt à être soi-même miséricordieux. Et pour les plus jeunes d'entre vous, c'est tout le sens d'une réplique fameuse dans le premier épisode de la saga Rambo. Un shérif qui est aux trousses du soldat John Rambo, vétéran de la guerre du Vietnam, demande des renseignements à son ancien supérieur. Un colonel qui lui explique que Rambo est capable de sortir de tous les guépiers, de survivre avec trois fois rien, qu'il est capable de venir à bout de tous ses ennemis, même dans des situations impossibles, et que ce que le shérif appelle l'enfer, Rambo appelle ça chez lui. C'est une citation. Alors le shérif dit au colonel, « Mais c'est qui ? Dieu ?» Et le colonel de répondre, « Non, Dieu aurait pitié, pas lui. » Dialogue d'anthologie, vous en conviendrez, qui révèle que le shérif a une image d'un Dieu tout-puissant et cruel, et la suite du film révélera qu'il se pensait lui-même ainsi. Alors évidemment, dans une perspective laïque, où la référence à Dieu n'est pas de mise dans les institutions, on peut se demander si cela joue quand même. Mais il serait quand même assez illusoire de penser que la théologie est sans effet au sein même des institutions. Qui pourrait prétendre, même l'athée le plus pur et le plus dur, qui pourrait prétendre que ses fondements politiques, ses fondements judiciaires, ne sont fondées que sur la Constitution ou sur les textes législatifs. Qui pourrait prétendre qu'en exerçant le droit, qu'en exerçant ses responsabilités, il n'interprète pas les textes fondateurs au regard de ses propres fondements théologiques, philosophiques, culturels, au regard de sa propre histoire, fort de ses propres expériences? Qui pourrait prétendre que l'application du droit se fait toujours de façon, j'allais dire neutre, mais plutôt mécanique, sans investissement personnel, sans que tout ce que nous avons en arrière-pensée, en arrière-fond, ne soit injecté dans notre manière de faire? Fort heureusement, dans une certaine mesure, on ne demande pas à un homme politique ou à un magistrat de laisser sa conscience au vestiaire. Reste que cette conscience n'est pas toujours forgée du mieux qui soit, alors que rendre la justice demande, par définition, un minimum de jugeote. C'est ce qu'explique le psaume 82, qui fait une description d'une situation où les tenants de la justice, les lieux tenants de Dieu, n'ont pas une très bonne vision du mandat qui leur est confié. Le psaume dit qu'ils marchent dans les ténèbres. Jolie métaphore pour dire qu'ils ne voient pas très clair. Le psaume exprime de quelle manière la justice est bafouée, les plus fragiles en subissent les conséquences de plein fouet, et, ajoute le psaume, les fondements de la terre chancellent. Pour autant, le monde ne va pas à l'abandon, même si certaines pratiques humaines le font sérieusement souffrir. Et c'est là que l'Évangile retentit dans ce psaume. Pour ceux qui ont peut-être une vision un peu désespérée du monde, du cours de l'histoire, eh bien, le psaume, en son dernier verset, le verset 8, affirme la confiance en Dieu qui peut juger la terre entière. Non pas la condamner, mais la juger. C'est-à-dire mettre fin à l'injustice, rétablir la balance déséquilibrée, exprimer le fait qu'au fond, il n'y a pas de fatalité, que la violence, l'injustice, le mal, la souffrance n'ont pas vocation à se répandre indéfiniment sans que rien ne puisse y faire obstacle. Il y a possibilité pour rétablir la balance déséquilibrée. Il y a possibilité pour rétablir de la justice. Et cela s'accomplit de deux manières, dit le psaume. La première, c'est de sortir les plus fragiles de cette situation qui est en train de les broyer. La seconde, et c'est celle qui m'intéresse plus particulièrement, c'est de transformer ceux qui pratiquent l'injustice. Lorsqu'au verset 2, Dieu demande « Jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice ?» cela indique que Dieu envisage un changement des personnes en cause, qu'il espère un futur meilleur avec elles et pas sans elles. Cela signifie que Dieu, justement, ne se comporte pas en justicier, qui élimine tout ce qui n'est pas conforme à ses projets. Au fond, cela nous montre à quel point Dieu nous propose une vision qui est plus proche de celle des moines de Tibérine que des agents secrets et mercenaires en tout poil. Oui, l'histoire des moines de Tibérine nous aide certainement à comprendre la pédagogie de Dieu en matière de justice. Convertir, réformer, eh bien cela nécessite pour le moins d'être présent, véritablement présent, auprès de ceux qui doivent changer. D'être au cœur des ténèbres, pour reprendre la formule du psaume, pour apporter la lumière, la connaissance, l'intelligence qui font manifestement défaut. Et pour ma part, je trouve qu'il est extrêmement frappant, et vous savez à quel point je n'ai pas une sympathie féroce pour les communautés monastiques, mais il est frappant de constater que les communautés religieuses ne désertent jamais les lieux de mort. Parce que pour ces croyants, fuir se seraient créées de nouvelles zones de non-droit. Se seraient laissées l'injustice et parfois l'ignominie aller bon train. Oui, il est frappant de constater la présence des religieux là où il y a de la violence et de la barbarie. Et à titre personnel, c'est pour moi une leçon. Leur présence, je trouve, offre une véritable alternative, une autre histoire, un autre scénario possible à ce qui se vit ici ou là, une autre logique en quelque sorte. Leur foi en ce Dieu qui ressuscite ce qu'on met à mort, précisément, eh bien les encourage à tenir bon, à ne pas lâcher, mais à tenir ferme. Cela les encourage à être un phare dans l'obscurité. Cela les encourage à être peut-être comme cette veuve que raconte la parabole, cette veuve qui harcèle le juge inique et qui obtient gain de cause finalement. Oui, cette foi les encourage à être les yeux de Dieu et peut-être la main de Dieu au cœur de l'enfer. Les moines de Tibérine soignaient gratuitement les gens du village. Ils enseignaient les enfants et les adultes. Ils offraient des divertissements, des objets culturels. Ils cultivaient la terre et étaient venus avec leur savoir-faire. Alors il ne faut pas avoir une vision trop idyllique, trop idéalisée. Les moines de Tibérine, à l'instar des religieux vivant là où les guerres civiles déchirent les pays, là où les réseaux mafieux étrillent les populations, sont un exemple radical d'un engagement au service de la justice. Et cet engagement peut donner le sentiment à nous qui sommes ici que c'est tellement éloigné de ce que nous sommes en capacité de vivre que cela n'a rien à nous raconter. Et pourtant, il n'est même pas nécessaire d'aller du côté de Grenoble pour voir à quel point des quartiers sont parfois laissés aux mains de ceux que ce psaume fustige. Il ne s'agit pas seulement de quartiers difficiles et de zones de non-droit où même les pompiers refusent de se rendre sans escorte policière. Être là, au cœur des ténèbres, et proposer une alternative, un autre scénario. C'est aussi ce qui est nécessaire dans certains établissements scolaires, et pas forcément très loin d'ici. Des établissements qui sont abandonnés par les familles, qui veulent non seulement un bon niveau d'enseignement, mais surtout de la sécurité pour leurs enfants, ce qui est on ne peut plus compréhensible. Et peu à peu, des établissements deviennent des endroits invivables, soit parce qu'ils ont été désertés, soit parce que ceux qui faisaient phare, ceux qui étaient des lumignons, n'ont pas été remplacés. Et ce que nous disons d'établissements scolaires peut être dit d'entreprises ou d'associations qui, au fil du temps, sont associations de malfaiteurs plutôt que bienfaiteurs. Et pourtant, tout cela est bien compréhensible. Parce qu'évidemment, il n'est pas forcément très raisonnable de prendre ses enfants en otage de nos idéaux et de leur imposer d'aller ici ou là, parce que nous estimons que c'est leur devoir. Et à vrai dire, il n'est pas non plus forcément très raisonnable de mettre sa propre santé en jeu, voire sa vie, au nom de nos idéaux. À vrai dire, c'est à chacun de se prononcer, bien sûr, et de savoir quelle est la bonne décision à prendre, quel est le bon lieu pour exercer sa propre responsabilité personnelle. Et les moines de Tibérine eux-mêmes furent divisés sur l'attitude à apporter, partir ou rester. Leur décision de rester fut le fruit de discussions nombreuses, de prières, de réflexions partagées. Et qui leur en aurait voulu de choisir l'autre solution, de partir ? personne, bien évidemment. Mais ils sont restés. Et il n'en demeure pas moins vrai que la justice ne peut reprendre ses droits qu'à la condition qu'elle soit exercée. Si ceux qui sont capables d'exercer la justice ne sont pas là où elle demande à être exercée, alors évidemment, la justice n'a pas grand avenir. Et cette justice est d'abord une affaire individuelle. Ce n'est pas d'abord la responsabilité d'un État. C'est nous, individuellement, qui sommes chargés d'apporter de la justice, là où nous sommes. Ce n'est pas l'État algérien qui a permis aux habitants de Tibérine de traverser la guerre civile et d'être aujourd'hui munis de ce qui est nécessaire pour assumer leur existence. Une habitante algérienne, dans un geste de reconnaissance peut-être un peu naïf, a écrit cette lettre aux religieux plusieurs années après leur mort, mais comme une nécessité, comme un besoin impérieux de dire merci. Elle écrit ceci. Nous étions seuls dans notre souffrance et aucun n'a eu le courage ou la pensée de prier au moins pour nous et de dire « Dieu, aide-les, acceptez-vous. » Eh oui, Dieu nous confie personnellement cette responsabilité de rétablir la justice, à la fois en prenant soin du plus faible et en prenant soin aussi du malveillant. Alors cette responsabilité peut nous donner le sentiment d'être largement au-delà de nos capacités, d'être une sorte d'utopie qui a bien sûr sa place dans l'imaginaire du croyant. Et au fond, cela fait peut-être partie de la panoplie traditionnelle du croyant qui fréquente une paroisse, mais qui n'a pas sa place, évidemment, dans le concret, dans la vie quotidienne. Et pourtant, il n'y a pas de mystère. Ce n'est qu'en étant au cœur des ténèbres que nous pouvons permettre à Dieu de les dissiper. Alors oui, cela peut nous sembler parfois largement au-delà de nos forces, largement au-delà de nos capacités. Et pourtant, Timothy Radcliffe, qui fut le maître général de l'ordre des prêcheurs, les dominicains, raconte il y a quelques années ce qu'il a vécu lors d'une veillée pascale. Cela se passait au Venezuela. Pendant la célébration, une jeune moniale chante au pied du cierge pascal. Seule lumière dans l'obscurité qui a recouvert l'assemblée. Elle chante dans le noir, un chant d'amour. Et cette image suggère à Timothy Radcliffe que les croyants sont pris dans un autre drame, une autre histoire que celle du justicier, que celle du super-héros, que celle de celui qui se prend pour Dieu, mais n'agit même pas comme un homme. La voilà notre histoire. C'est le cœur de la nuit, et cette moniale chante un chant farouche. C'est la nuit, et elle chante les louanges de Dieu. Parce que, même dans le noir, entre le commencement et la fin, on peut rencontrer Dieu et le glorifier. C'est maintenant l'heure. Et attendant d'être assassiné, Jésus dit à ses disciples, « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, car j'ai vaincu le monde. » C'est maintenant l'heure de la victoire et de la louange. Amen.